Ce matin, quel privilège de prêcher, d'apporter la parole. Et je commence avec une courte histoire de ma vie personnelle. Il y a à peu près un an et demi de ça, je jouais au hockey avec des amis ici, dans ce lieu, et je me suis blessé au genou. Certains, peut-être, vous vous rappelez que j'ai même prêché assis, vous m'avez vu en béquille dans l'église, tout ça. Et mon genou ne guérissait pas. À un moment donné, mon médecin m'a dit, il faut que tu aies passé un IRM. Combien vous êtes déjà passé un IRM? Lève ta main. Donc, quelques personnes, quelques chances. Chanceux dans ce lieu. Moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que la seule fois que j'avais vu ça, c'était dans les émissions, les séries télé, hein, les séries télé de médecine. Et là, on va passer un IRM, il embarque dans la machine, et qu'est-ce qui se passe, etc. Et ce qu'on ne voit pas dans les séries télé, c'est que cette machine-là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ceux qui l'ont déjà vécu, on te met un casque comme ça. Et là, j'embarque dans la machine et ça rentre un peu comme ça. Et le bruit part et ça fait un bruit vraiment intense. Ça fait toutes sortes de bruits comme ça. Et c'est assez agressant et assez désagréable. Et je me suis dit, la personne qui a inventé cette machine-là, elle a oublié de mettre un muffler à sa machine. Elle a oublié de mettre un silencieux, quelque chose. Ça n'a pas d'allure. Pourquoi ça fait tant de bruit que ça? Et j'ai passé un IRM pour savoir ce qui se passait vraiment dans mon genou. Parce que visuellement, mon genou est parfait. J'ai un genou de rêve, j'ai un beau genou. Mais à l'intérieur, c'est là que ce qu'on ne pouvait pas voir, c'est là qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qu'il y avait un problème, on a pu voir ce qu'il y avait. Et je vais me faire opérer éventuellement pour ce genou-là. Et pourquoi je vous compte ça aujourd'hui, ce matin? Parce que c'est la même chose qu'on va vivre ensemble ce matin. On va vivre ensemble un IRM spirituel. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? On va inviter les musiciens qui vont faire le bruit à la guitare, joue comme ça. Non, il n'y aurait pas de bruit, il n'y aurait pas de guitare. Alors, quand je vous regarde ici ce matin, tout le monde est beau, souriant, vous sentez bon. Mais qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Comment tu vas vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie spirituelle? Et aujourd'hui, on n'est pas là simplement pour se dire bonjour et être heureux. On est là pour faire le point avec Dieu. On est là parce que Dieu veut faire une œuvre réelle, authentique et profonde en dedans de nous. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin pour un IRM spirituel? Laissez Dieu aller au-delà de votre apparence, de votre sourire et se rendre au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme, parce que c'est là que Dieu veut agir ce matin. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ? Un texte dit ceci dans le psaume 139, verset 23. « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et cette prière-là, le chrétien devrait la faire régulièrement. Régulièrement, devrait venir devant Dieu et dire « Seigneur, sonde mon cœur. » Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas dans ma vie? Y a-t-il quelque chose qui a besoin d'être transformé, enlevé, ajouté par toi? Fais une œuvre, examine-moi, Seigneur, connais mon cœur. Et c'est ce que je prie que Dieu fasse dans nos vies ce matin. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Page blanche ». Pourquoi « Page blanche » ? Parce que je prie que notre attitude aujourd'hui devant Dieu soit « Seigneur, ma vie est devant toi comme une page blanche ». Tu peux écrire ce que tu veux sur ma vie. Tu peux faire ce que tu veux avec ma vie. Je m'abandonne à toi complètement, totalement. Savais-tu qu'on sert un Dieu qui est créateur, créatif, artisan et artiste? Est-ce que tu savais ça? As-tu déjà été émerveillé devant un coucher de soleil ou devant la nature? Lève ta main si tu as déjà été émerveillé, touché, ému, tout le monde dans ce lieu. Quand on regarde à la nature, on se rend compte qu'on sert un Dieu qui est extraordinaire. Non seulement il a créé toutes choses, mais ce qu'il a créé est magnifique. Ce qu'il a créé est exceptionnel. Lorsqu'on regarde la beauté de la création, combien vous avez vu l'éclipse récemment? Hein? Ici à Drummondville, on avait la chance de voir l'éclipse. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était vraiment un beau moment. C'était vraiment là, quand c'est devenu sombre là, et qu'on dirait qu'il y avait un filtre devant nos yeux, c'était wow! Et ça, c'est juste une éclipse. Mais ça nous faisait réaliser la grandeur de l'univers, la grandeur de Dieu, la grandeur de notre Seigneur. Et quand on regarde la complexité de la vie sur la Terre, le fait que la Terre est à une distance parfaite de notre étoile, du Soleil, pour qu'on puisse y vivre, pour qu'on puisse, et qu'il puisse avoir une température qui a de l'allure pour que les êtres humains vivent. Quand on pense que la Terre est inclinée à 23 degrés, qui permet les saisons et qui permet d'avoir de l'eau liquide sur la Terre, qui fait qu'on peut vivre ici, moi, je m'émerveille devant la grandeur de Dieu. Je m'émerveille lorsque je pense au corps humain, à comment fonctionne notre corps humain, aux différents systèmes interreliés dans notre corps. Le fait que quand on mange des aliments, ça se transforme en nutriments, en énergie qui nous permet de fonctionner. Quand on pense aux plantes et au cycle des plantes et des arbres et des fleurs, aux semences, au fait que ça se reproduit comme ça. Quand on pense à la grandeur de l'univers, à la photosynthèse, à la respiration humaine, à l'œil, comment ça se fait que des tissus comme ça créent, génèrent une image. Comment fonctionne le cerveau? Quand je pense à tout ça, je réalise que je sers un Dieu qui est créateur, créatif, artisan et artiste. Genèse 1 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu est créateur. Il a tout créer ce qui nous entoure, l'univers. Lorsqu'on regarde à Ésaïe 64, ça nous dit ceci. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Dieu t'a créé, Dieu t'a formé. Il est celui qui t'a façonné. Psaume 139. Verset 13, le verset préféré de Will Abriel, mesdames et messieurs. Toi, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ah, c'est son verset préféré. Hein? Tous les matins, il se réveille en disant ça. J'aimerais vous dire, vous êtes des œuvres admirables. Dieu nous a créés, mais Dieu nous a créés de façon extraordinaire. Tu es une personne précieuse aux yeux de Dieu. Une personne extraordinaire aux yeux de Dieu. Et ce Dieu qui a tout créé a un plan pour ta vie. Il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre. Peut-être que tu te demandes pourquoi j'existe, pourquoi je suis vivant, ça sert à quoi, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le sens de ma vie. Je vais te lire un verset qui répond en partie à cette grande question. Éphésiens 2:10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pourquoi tu existes? Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé parce qu'il y a une mission pour toi sur cette terre. Dieu t'a créé parce qu'il a préparé des œuvres d'avance que tu devrais accomplir. Des œuvres bonnes. Dieu a un chemin bon pour toi. Dieu a une vie excitante pour toi. Une vie d'avancement. Une vie pas facile, pas parfaite, mais une vie où il y a de la joie. Une vie où on s'empare, où on avance, où on vit des choses extraordinaires. Et moi, aujourd'hui, par ce message, j'aimerais qu'on regarde rapidement à 4 décisions qu'on peut prendre ensemble pour vivre pleinement cette volonté de Dieu dans nos vies. Combien si tu veux vraiment vivre la volonté de Dieu pour ta vie? Tu veux vivre tout ce que Dieu a pour toi? Et aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi, bien qu'on veut vivre la volonté de Dieu, bien qu'on veut vivre pleinement les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, on va tenter de comprendre pourquoi il existe des chrétiens qui semblent avoir une vie plate et médiocre. Je sais que c'est dur comme phrase. C'est pas supposé, on n'est pas supposé dire des affaires de même. Mais la réalité, c'est que il y a des gens, ils ont reçu Jésus, ils ont levé la main, ils ont fait la prière de repentance, mais leur vie semble plate. Leur vie semble sans sens, sans but. Et aujourd'hui, on va tenter de régler ce problème-là. On va tenter que chacun d'entre nous, qu'on puisse entrer dans la destinée que Dieu a préparée est prévu pour nous. Est-ce que ça tente de vivre ça? Premier conseil, cherche sa face comme jamais. Cherche la face de Dieu comme jamais. Tu veux vivre pleinement tout ce que Dieu a pour toi, cherche sa face. Psaume 27 nous dit ceci. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me repousse pas avec colère, ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. » Vous savez, il existe plein de types et de sortes de prières. Et une des prières que les chrétiens sont bons là-dedans, c'est on prie et on demande la main de Dieu. On demande la faveur de Dieu, on demande l'action de Dieu. Combien vous priez ça régulièrement? Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, j'ai besoin de. Levez la main, c'est une bonne forme de prière, c'est correct. Moi, je prie souvent comme ça. Seigneur, j'ai besoin de. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, règle mes dettes. Hein, combien ont déjà prié ça récemment? Seigneur, règle mes dettes. Aide-moi, là. Puis, on dirait qu'il ne répond pas instantanément à toutes les prières, mais on en reparlera une autre fois peut-être. Hein? Sabinelle va vous prêcher là-dessus un moment donné. Mais il existe une forme de prière où on ne cherche pas seulement la main de Dieu, où on cherche sa face. On ne cherche pas seulement à recevoir quelque chose de Dieu, mais on s'approche de Dieu parce qu'on veut le connaître. On s'approche de Dieu parce qu'on l'aime. On s'approche de Dieu parce qu'on veut entrer dans sa présence et on veut découvrir qui il est et on veut lui donner la gloire. On veut l'adorer. On veut se connecter avec lui d'une façon intime. Et le chrétien qui marche dans la volonté de Dieu pour sa vie. Le chrétien qui accomplit les plans que Dieu a préparés pour lui, c'est un chrétien qui aime Dieu et qui sert Dieu non seulement pour ce que Dieu peut lui donner, mais il sert Dieu parce qu'il veut chercher sa face, parce qu'il veut le connaître. Et tu veux vivre pleinement tout ce que Dieu a pour toi, je t'invite dès maintenant, dès ce matin, à prendre la décision dans ta vie personnelle à chercher plus la face de Dieu, d'avoir des moments dans ta vie avec Jésus dans la prière, dans la présence de Dieu. On peut prier en faisant la vaisselle, on peut prier en conduisant la voiture, on peut prier au travail parfois, mais je vous parle de moments où on tasse tout pour être avec Jésus. Où on ferme Netflix, le téléphone, on ferme toutes les distractions, on ferme les gens qui nous entourent. On s'isole avec Dieu et on cherche sa face. Il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu lorsqu'on tasse tout pour être avec lui, pour être à ses pieds. Un peu comme cette histoire de Marthe et Marie dans la Bible. Jésus arrive chez elle et Marthe court partout et elle prépare le repas, mais Marie, elle tasse tout et elle s'assoit aux pieds de Jésus. Et c'est le genre d'attitude que nous sommes appelés à développer, l'attitude qui cherche la face de Dieu. Concrètement, ça veut dire de faire de la place dans nos horaires, se lever un peu plus tôt, prendre une pause au travail peut-être, s'isoler avec Dieu. Et crois-moi, si tu fais ça dans ta vie, si tu développes ça dans ta vie, ça va te propulser. Ça va te propulser dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ce matin? Deuxièmement, nous détourner de nos mauvaises voies. Zacharie 1:4. Ne soyez pas comme vos ancêtres, auxquels les premiers prophètes proclamaient. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Et aujourd'hui, tu veux vivre pleinement tout ce que Dieu a pour toi. Tu veux vivre cette vie excitante, cette vie chrétienne vivante. Cherche sa face. Mais aussi, développe dans ta vie des moments où tu fais le point et où tu te détournes de tes mauvaises voies. Vous savez, quand on devient chrétien, quand on reçoit Jésus dans notre vie, automatiquement, nous sommes sauvés. Automatiquement, nos péchés sont effacés. Nos péchés sont pardonnés. Automatiquement, nous avons accès à Dieu par la prière. Automatiquement, directement, nous avons une assurance de la vie éternelle avec Christ. Est-ce que je peux entendre un amen?
Amen.
Mais l'affaire qui arrive, le petit problème, c'est qu'on n'est pas encore complètement transformé à l'exemple de Jésus, à l'image de Jésus. On vit encore dans ce corps d'être humain et on vit encore des tentations, des difficultés, des péchés, des fois avec lesquels on doit combattre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis le seul qui s'est rendu compte de ça en devenant chrétien? Il me semble que ça a changé des choses, mais pas toutes. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à régulièrement venir devant Dieu et dire, « Seigneur, ah, j'ai besoin de toi. Transforme-moi. Pardonne-moi. Lave-moi de mes péchés. » Des fois, c'est une mauvaise attitude qu'on a dans notre vie. Hein, une façon de parler aux autres, de répondre aux autres, de regarder les autres. Il y a des gens qui disent, « Moi, je parle toujours bien. Oui, mais tu regardes les autres de même. » Jésus veut changer ton regard, veut changer tes yeux. Peut-être que tu as une mauvaise habitude dans ta vie qui est entrée doucement, discrètement. Une habitude qui te détruit, qui te ronge, qui te fait du mal, qui fait du mal à ton couple, qui fait du mal à ton estime de soi. C'est important comme chrétien régulièrement de dire, Seigneur, s'il y a de quoi dans ma vie qui ne marche pas, change-moi. Pardonne-moi, transforme-moi. On a besoin d'avancer, on a besoin que nos pensées destructrices, sombres, impures, toxiques soient remplacées par des pensées de vie. On a besoin de développer de la vigilance comme chrétiens, de ne pas laisser entrer ces mauvaises choses dans nos vies. Régulièrement de venir devant Dieu et dire, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi. Le chrétien qui vit pleinement la volonté de Dieu n'est pas un chrétien parfait, est un chrétien qui marche dans un chemin de repentance. Régulièrement, il va devant Dieu et dit, « Seigneur, je l'ai échappé. Seigneur, j'ai manqué ma shot en bon québécois. Et pardonne-moi. Et replace-moi dans la bonne voie. » Il y a plusieurs mois de ça, j'ai eu un problème chez nous avec un électroménager. Cet électroménager, chers mesdames et messieurs, est le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, son nom le dit très bien, c'est supposé laver la vaisselle. Et on dirait qu'il avait pris congé de ses fonctions parce qu'il ne faisait plus la job. Et là, tu recevais des gens à souper, là, je reçois à souper, tout ça, je te sors un beau verre, et le beau verre qui sortait du lave-vaisselle, il était dégueulasse. Il était tout sale. Donc là, c'était un peu frustrant. Un peu, voyons, qu'est-ce qui se passe, un peu. Jusqu'à temps que je me rende compte que dans le fond de cette machine-là, dans le fond de cette boîte, il y a un filtre qu'on peut nettoyer. Il y a des gens ici qui font « Ah! » Alors, j'ai enlevé le filtre et je suis allé dans la cuisine. J'ai nettoyé ça avec de l'eau. Ça a pris vraiment une grosse minute et demie. Je l'ai remis dans le lave-vaisselle. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ça a réglé mon problème. La vaisselle redevenait propre à nouveau. Il y a des gens ici aujourd'hui, le filtre de ton âme est encrassé. Le filtre de ton âme, ça fait longtemps qu'il n'a pas été nettoyé. Et tu te demandes pourquoi tu n'as pas de joie dans ta vie chrétienne. Tu te demandes pourquoi tu n'accomplis rien pour Dieu et que ça semble lourd. Peut-être que tu as besoin que ton filtre soit nettoyé par Dieu. Peut-être que tu as besoin ce matin de dire, « Seigneur, nettoie mon âme. Seigneur, que tout ce qui m'empêche d'avancer, enlève-le dans ma vie. Je veux vivre pour toi. Nettoie ma vie afin que je te serve. » Est-ce que je peux entendre un « Amen » ce matin? On veut chercher sa face. On veut nettoyer nos âmes régulièrement. On veut aussi chercher à grandir dans la foi, dans notre vie spirituelle. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit ceci. Paul va saluer une église. Il va dire, « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » J'aime cette salutation de Paul. Il va dire, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que quand je regarde à vous, je vois une foi qui est en progression. L'important, ce n'est pas où tu es en ce moment dans ta foi. C'est est-ce que tu grandis dans la foi? Est-ce que tu avances dans ta foi? Est-ce que tu te développes dans ta foi, dans ta confiance en Dieu? C'est ça qui est important. Autre chose que je remarque dans ce texte, il va dire, c'est extraordinaire, c'est wow, votre foi augmente et l'amour mutuel que vous portez tous augmente de plus en plus. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que la foi augmente toujours en même temps que l'amour. Tu ne peux pas dire, oh, moi, je suis un homme de foi, je grandis dans la foi, je vais abattre des forteresses, mais manquer d'amour pour ton prochain. L'amour pour le prochain et la foi sont interreliés. Tu grandis dans l'un, tu grandis dans l'autre. Donc aujourd'hui, je veux grandir dans l'amour, je veux grandir dans la foi. Luc 17, 5 nous dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Combien vous avez cette même prière aujourd'hui? Seigneur, augmente ma foi. Je veux être un homme de foi. Je veux être une femme de foi. Je veux te faire confiance pour ma vie. Je veux m'emparer des promesses que tu as pour moi. Luc 18, 8, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pasteur Seb l'a dit tantôt, alors qu'on était rassemblés en prière, il nous parlait que Jésus revient bientôt, que les signes qui entourent sa venue sont nombreux et abondants. Vous voulez savoir tout ce qui est décrit dans la Bible qui entoure les signes du retour de Christ, c'est là, c'est décrit, c'est clair, c'est nombreux. Et si tu veux voir une autre place où c'est décrit, tu as juste à regarder TVA Nouvelles. C'est interrelié. Ce qui se passe sur la terre en ce moment est connecté à ce qu'on lit dans la Bible. C'est une évidence. Si tu n'es pas d'accord avec ça, viens me voir après, on va débattre. C'est une évidence. C'est une évidence qu'il revient bientôt. C'est une évidence que nous vivons dans les temps de la fin. Et le chrétien, notre responsabilité jusqu'à son retour, c'est de grandir dans la foi. Quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouveras-tu une église en feu pour lui, qui lui fait confiance malgré l'adversité? Est-ce que c'est ça que Dieu va trouver à Drummondville? Je prie que oui. Je prie que nous soyons ce peuple de foi. Vous savez, même les non-chrétiens qui se moquent de Dieu comprennent que notre planète, il en reste plus long. À la fin de l'année 2023, il y avait cette émission païenne qu'il ne faut vraiment pas regarder, mais qu'on a regardé tous ensemble, qui s'appelle le Bye Bye 2023. Et la toune du Bye Bye, c'était quoi au début? C'était Bienvenue au dernier Bye Bye. Même ces gens qui se moquent non-stop comprennent que, my, c'est peut-être la dernière fois qu'on fait un Bye Bye, ça va tellement mal sur la planète Terre. Et je prie comme chrétien, que nous aussi on saisisse et qu'on puisse être de ceux qui grandissons dans la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mon fils a démarré une chaîne YouTube et, où on le regarde jouer à des jeux vidéo, entre autres. Et un des jeux vidéo auxquels il joue, c'est Zelda. Donc, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que je parle un langage que certains comprennent? Y a-t-il des gamers dans ce lieu? On va prier pour vous après la réunion. Il y a des petites mains timides. On va faire une session de délivrance après. Pasteur Issa va vous imposer les mains. Et dans le jeu Zelda, le personnage principal s'appelle Link. Et le jeu commence et il trouve une première arme qui est un bout de bois, un bâton de bois, la première arme que tu trouves. Et avec cette première arme, tu es capable de battre la première bébite, le premier méchant. Mais plus tu avances dans le jeu, plus tu as besoin d'upgrader tes armes. Tu as besoin de trouver des armes plus puissantes pour affronter les méchants plus puissants. Est-ce que vous êtes là? À un moment donné, tu vois le personnage, il court comme ça, et là, il y a des armes dans le dos. Ça fait 4 fois quasiment sa grandeur, des épées comme ça, des arcs et tout ça. Et quand les méchants arrivent, crois-moi, Link, il est prêt à les affronter. Il y a des gens aujourd'hui, tu es encore avec ton petit bâton. C'est pas suffisant. Tu as besoin d'upgrader tes armes de foi. Les défis de la vie grandissent tout le temps. Les difficultés, les problèmes, les défis qui se présentent dans nos vies, la maladie, les épreuves, les conflits. Tu as besoin de grandir dans la foi, non seulement pour faire face aux problèmes et aux défis, mais aussi pour devenir un conquérant. La foi ne sert pas juste à affronter les défis, la foi sert à s'emparer des promesses. J'espère que tu comprends ce que je dis. Non seulement affronter les problèmes qui vont tomber dessus parce qu'on vit sur la terre, tu as besoin de foi pour ça, une confiance en Dieu, inébranlable, mais Dieu veut augmenter notre foi pour qu'on devienne des gens, non seulement avec des armes défensives, mais avec des armes offensives. Qu'on utilise notre foi pour s'emparer des promesses, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour gagner des âmes à Jésus, pour former des disciples, pour amener cette Église à sa prochaine étape. Amener cette Église à sa prochaine étape. On veut pas, on prie pour la croissance, on vit la croissance. Dieu n'a pas fini avec ça. On veut croître numériquement, mais on veut aussi croître dans la foi. On veut ensemble s'emparer de tout ce que Dieu a pour nous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de venir devant Dieu et dire, « Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes ma foi. J'ai besoin que tu changes mes pensées noires, négatives, dépressives en pensées de vie. » Parce que la foi, ça se passe beaucoup dans notre tête, dans nos pensées. Un manque de foi se transpose dans ce qui se passe en dedans, que personne ne sait des fois. Puis la foi, ça se passe aussi en dedans. Ça se passe aussi dans nos pensées. Et Dieu veut changer nos pensées. Dieu veut te donner des pensées de foi. Devant la situation qui se présente, de dire non, je fais confiance à Dieu. Je ne sais pas comment, je fais confiance à Dieu. Donc, cette personne-là semble dure, semble rien vouloir savoir de Jésus. Je fais confiance à Dieu. Je prie avec foi. Dieu va la sauver. Amen. Et dernièrement, ce matin, comment vivre pleinement la volonté de Dieu dans nos vies? Offre une page blanche au Seigneur. Ne cherche pas à diriger Dieu. Laisse-le te diriger. Ne donne pas de restrictions au Seigneur, mais donne-lui carte blanche. Il y a très longtemps de ça, j'ai fêté mes 30 ans. Et ma femme et moi, nous sommes allés dans un super restaurant, Europea, à Montréal, si vous voulez y aller avec le chef Jérôme Ferrer. Et il y avait une des options sur le menu qui était 20 services. Et là, ce n'est pas 20 pâtés chinois, là. C'est 20 services, c'est fin, c'est beau, c'est travaillé, tout ça. Et on a choisi cette option-là, c'était incroyable. On roule en sortant, c'est certain. Et je m'imaginais quelqu'un qui va dans un resto comme ça, et le serveur arrive, et tout est beau dans le resto, le chef, c'est un chef incroyable, ça sent bon, la lumière est tamisée parfaitement, la musique n'est pas trop forte, mais juste assez forte. J'aime pas ça, la musique trop forte dans le restaurant. Et tout est super, la nappe est repassée, blanche, tout est parfait. Et le serveur arrive, qu'est-ce que je peux vous servir? On va prendre un menu 20 services, parfait. Et là, d'entendre la personne dire au serveur, « Ah, il y a juste quelques affaires que je voudrais vous dire, monsieur le serveur. C'est juste que moi, là, je ne mange pas de viande. » OK. Aussi, monsieur le serveur, il ne faudrait pas qu'il y ait d'œufs dans aucun des plats. OK, d'accord. Juste vous dire aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait de fruits de mer. Parce que pour moi, des fruits de mer, ça ressemble à des grosses bibittes qui vivent sous l'eau. J'en veux pas. OK, d'accord. C'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de gluten dans aucun des plats. Aussi, juste vous dire, il ne faudrait pas qu'il y ait de sucre. Parce que j'ai entendu un reportage à la télé, monsieur, le serveur. Et dans ce reportage, ça me disait que le sucre, c'est du poison. Donc, je n'ai pas de sucre dans aucun plat. Non plus, c'est parce que j'aime pas vraiment les fruits. Je veux pas qu'il y ait de fruits. Je voudrais pas qu'il y ait de légumes verts. Ni d'aucune autre couleur. Je voudrais pas de pâtes. Les pâtes. Je vais m'en faire à la maison, mais c'est pas grave, tu comprends? Je voudrais pas qu'il y ait de patates non plus. Ni de produits laitiers. Pensez-vous que cette personne-là va vivre une superbe expérience dans son menu 20 services? La réponse est non. Ça marche pas. Est-ce que le problème, c'est que le chef est pas bon? Mais non. Est-ce que le problème, c'est que le restaurant est pas super? Mais non, le restaurant est super. Le chef est incroyable. Le problème, c'est que la personne met trop de restrictions au chef. Pourquoi des chrétiens se disent chrétiens, mais ont une vie plate, monotone? C'est à cause des restrictions qu'on donne à Dieu. On met des restrictions à Dieu dans notre vie. La vraie vie chrétienne, la seule vie chrétienne vraie, c'est une vie où on s'abandonne totalement à Christ. Yes. Pas applaudir pour de vrai. Si tu dis, Seigneur, je veux bien vivre pour toi, je te donne ma vie, mais je préfère ne pas m'impliquer à l'Église. Je préfère ne pas m'impliquer auprès des enfants, ils m'énervent les enfants. Je voudrais pas m'impliquer auprès des ados. Je ne veux pas m'impliquer avec les jeunes adultes. Seigneur, les couples, ça ne me tente pas vraiment. Seigneur, je ne veux pas m'impliquer auprès des aînés. Seigneur, les groupes, ça ne me tente pas. Ça m'énerve, les groupes. S'asseoir en rond, jaser, prier. Non! Seigneur, je veux bien te servir, mais une chose qui est claire, Seigneur, c'est que mon argent est à moi. Seigneur, tu n'as pas vu l'inflation. Seigneur, tu n'as pas vu le prix de l'épicerie, le prix de mon hypothèque, de mon loyer. Seigneur, mon argent est à moi, j'en ai besoin. Laisse faire la dîme, laisse faire les offrandes. On donne des restrictions à Dieu. Seigneur, je veux bien vivre pour toi, mais je préférerais ne pas parler à mes voisins. Tu me cries de même, Seigneur, je suis un sauvage. Pas parler à mes voisins. Seigneur, je veux bien vivre pour toi, mais quand je vais au travail, je voudrais pas que les gens sachent que je suis chrétien et que je vais à l'église. Et là, on donne des restrictions à Dieu. Et on se demande pourquoi notre vie n'est pas excitante. Tu veux une vie excitante pour Dieu? Enlève toutes les restrictions. Donne une page blanche au Seigneur. Donne une page blanche au Seigneur. Ouvre ton cœur à Dieu. Sois prêt à être dérangé pour Dieu. Marc 1,16, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque et les ouvriers et le suivirent. Parfois, suivre Jésus, ça veut dire abandonner quelque chose. Parfois, suivre Jésus, ça veut dire prendre des décisions que tu ne prendrais pas normalement. Sortir de ta zone de confort. Sortir de tes habitudes. Je ne te dis pas que Dieu va te demander de quitter ta barque, mais Dieu va sûrement te demander de quitter quelque chose pour le servir. On veut une église ici en réveil comme jamais. Ça implique que plein de personnes soient au service de Dieu et au service de l'Église. Ça implique que tout le monde dans ce lieu ici, Dieu a une place pour chaque personne dans ce lieu, qu'on puisse servir en quelque part, mettre nos dons à contribution de Dieu et de l'Église. Sois prêt à être dérangé. J'ai invité les musiciens à revenir. J'arrive déjà à mon dernier verset de la matinée. On va finir en prière ensemble. Jérémie 29, 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Une des raisons pourquoi on peut vraiment confier notre vie à Dieu complètement, sans restriction, c'est qu'on sert un Dieu qui est bon. un Dieu qui est bon et qui veut des bonnes choses pour nos vies. Tu n'as pas à avoir peur de Dieu. Tu n'as pas à avoir peur du plan qu'il a préparé pour toi. Tu n'as pas besoin de te dire, tu n'as pas besoin de te protéger de Dieu. Comme s'il allait te conduire dans un chemin de désespoir. Non, Dieu te connaît. Dieu connaît tes dons. Dieu connaît ta personnalité. Dieu connaît tes talents. Dieu connaît ce que tu ne connais pas de toi encore aussi. Et tu peux lui confier ta vie complètement, sans restriction, sans lui donner de petits caractères en bas du contrat qui dit que tu n'es pas prêt à faire ceci ou à faire cela. Ce matin, on a vu ensemble. On a parlé ensemble qu'on allait faire un examen, un IRM spirituel. Qu'on allait laisser Dieu se rendre au plus profond de nos cœurs, à la partie qui n'est pas visible de nous, à la partie qui est cachée de nous. On a vu ensemble quatre façons où on peut grandir dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous. L'importance de chercher la face de Dieu. L'importance de régulièrement se détourner de nos mauvaises voies. L'importance d'être ce chrétien qui grandit dans la foi. On a terminé avec ce cœur qui offre une page blanche au Seigneur. Ce matin, en terminant, je vais inviter toute l'Église à s'offrir à Dieu complètement, entièrement, à enlever les restrictions dans nos vies, à s'offrir à Dieu sans réserve, à s'offrir à Dieu complètement, sans rien garder pour nous-mêmes. Il y a un texte que j'ai passé par-dessus, je vais le retrouver. Dans Romains 12, tu peux le retrouver, l'afficher, s'il vous plaît. Qui dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et Christ s'est offert pour nous. Christ s'est donné pour nous complètement. Il est mort à la croix. Il a perdu sa vie pour que tu puisses avoir une vie. Et la réponse du chrétien, la réponse du croyant, c'est quoi? C'est ce texte. C'est « Seigneur, en retour, je te donne mon corps et ma vie. » Complètement, sans rien retenir. Et la Bible dit que ça sera de votre part un culte raisonnable. C'est juste la vie chrétienne normale, ça. Où on se donne complètement, on s'abandonne complètement à Jésus. Alors ce matin, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, s'il vous plaît? Tous se lever dans la présence de Dieu. On va chanter un chant de consécration ensemble ce matin. Et alors qu'on chante ce chant, je t'invite pour quelques minutes à prier ce chant et à t'abandonner complètement à Christ. Imaginez ce qui arriverait si chaque personne dans ce lieu s'abandonnerait complètement à Jésus, sans restriction, prêt à le servir, prêt à vivre pour lui. Imaginons ce qui pourrait arriver à Drummondville si chaque personne ici donnait une page blanche au Seigneur. Alors ce matin, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, je t'invite à fermer tes yeux, à lever tes mains si tu es à l'aise de le faire, à lever tes mains en signe d'abandon envers Christ et offre-toi à lui ce matin. On va chanter ce chant et pendant qu'on chante, offre-toi à lui. C'est pas juste un interlude musical, c'est un moment de consécration, c'est un moment de prière, c'est un moment où les chrétiens répondent au message et à l'appel. Alors lève tes mains, tourne-toi vers Christ ce matin, abandonne-toi à lui, alors qu'on chante ce chant ensemble.